Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de la mettre. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Vous écoutez Le Tarn à l'envers, l'émission de CFM Radio qui met en lumière des hommes et des femmes qui tracent un chemin durable et réinventent notre lien à la terre et l'environnement. Chaque semaine, partons à la rencontre et à la découverte d'initiatives vertueuses et inspirantes. Le Tarn à l'envers sur CFM Radio pour cultiver l'espoir et semer demain.
Bonjour Delphine Valero.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'association Endemix, qui est un jeune centre de soins pour la faune sauvage, qui est basé à Terre de Bancalier, dans le Tarn. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est créé, cette association ?
Alors l'association Endemix Ami est composée donc de deux mots, endémique, donc les animaux qui sont endémiques du territoire, donc ça peut être autochtone ou migrateur, et Ami, puisque ce sont nos amis, la biodiversité sont nos amis. L'association Endemix Ami est née en fait d'un besoin sur le territoire de soigner la faune sauvage. Le parc Exotique Ami et son fondateur Cédric Beignet étaient souvent sollicités pour soigner les animaux de la nature qui étaient blessés ou orphelins. Néanmoins, un parc zoologique n'a pas le droit de faire ces actions-là.
D'accord.
Et pour ça, il faut créer un centre de soins. En 2020-2021, je rencontre Cédric Beignet par le biais de travail zoologique et il me parle de ce projet-là que j'accepte. Et on fondera ensemble Endemix Ami et son centre de soins, maintenant sur pied.
Et
toujours en travaux, mais sur pied.
Et donc vous êtes donc présidente, mais aussi la gestionnaire et la capacitaire du centre de soins. Qu'est-ce que ça veut dire être capacitaire ?
Alors effectivement, je suis présidente, gestionnaire et capacitaire du centre de soins. Donc capacitaire, en fait, c'est la personne qui dispose du certificat de capacité. C'est un agrément qui est délivré par les services vétérinaires du département. Et par le préfet. C'est un agrément qui, en fait, certifie que j'ai toutes les connaissances et compétences pour pouvoir travailler avec les animaux en question et de mener les actions qui sont spécifiques au centre de soins de la faune sauvage.
Et donc, vous êtes une équipe de bénévoles, je crois, dans l'association. Et donc, il faut quelles compétences ? Il faut être vétérinaire, en fait, pour venir soigner la faune sauvage ?
Alors, il ne faut pas être vétérinaire pour venir soigner la faune sauvage. Si on l'est, c'est encore mieux.
D'accord.
Néanmoins, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de formation qui soit liée aux soins à la faune sauvage. C'est un métier qui n'est pas vraiment trop reconnu. On connaît les soigneurs animaliers en parc zoologique, les ASV, les vétérinaires, etc. Donc, en fait, pour venir œuvrer dans un centre de soins, il faut soit être bénévole et être formé par le capacitaire qui est en fait, lui, le décisionnaire de tous les soins qui sont à appliquer. Ou alors avoir déjà fait, on va dire, ses armes dans le milieu. Néanmoins, pour pouvoir être, par exemple, capacitaire, il faut justifier d'une expérience de plus de 2 ans, selon la législation, dans ce milieu-là.
D'accord, ok. Qu'est-ce que vous accueillez comme espèce, dites-moi, de la faune sauvage, dans votre soin ? Est-ce que ce sont que des petits animaux ? Est-ce qu'il y a aussi des cervidés comme des chevreuils ?
Alors, notre centre étant un tout petit centre de soins, nous n'avons pas la capacité physique de pouvoir accueillir de grands mammifères, notamment les chevreuils ou les sangliers. Ça dépendra de son développement à terme. Néanmoins, nous sommes quand même autorisés à pouvoir accueillir mammifères type renard, écureuil, blaireau, hérisson, qui sont très nombreux souvent à cette période, mais aussi les oiseaux.
Okay.
Tels que les rapaces, aussi bien que les merles, que les grues, ce genre de choses. Ou encore même les reptiles, lézards et serpents.
D'accord.
Et certaines tortues.
Il faut rappeler que vous êtes un tout petit centre de soins en construction qui a besoin de soutien financier pour pouvoir grandir et que vous n'avez donc pas la capacité d'accueil de tous les animaux qu'on peut vous apporter et que vous serez peut-être obligé de refuser certains animaux faute de place. Mais quand on vous apporte des animaux, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution ? Est-ce qu'il y en a déjà des précautions à prendre ?
Oui, tout d'abord, nous appeler avant d'intervenir sur un animal puisque certains animaux n'ont pas forcément besoin d'être manipulés par l'homme. Des fois, il suffit juste d'intervenir à distance. distance, et sinon pour lequel on va demander aux personnes de prendre des précautions, comme se couvrir les mains, par exemple, pour ne pas déposer notre odeur sur un mammifère. Ça peut être fatal, la maman peut abandonner, par exemple, un petit mammifère dont on aurait déposé notre odeur dessus, ou autre. Toujours nous appeler avant d'agir, ça c'est le maître mot. Et à partir de ce moment-là, on conseillera ensuite aux gens de mettre l'animal dans un carton au préalablement percé, de le mettre dans un lieu calme, surtout d'éviter tous les comportements qu'on pourrait avoir avec un animal domestique. Mmh. Ça peut être fatal pour eux aussi. Et surtout, rester dans le calme, ne pas nourrir l'animal, ne pas l'abreuver et nous téléphoner.
D'accord. Ok. Et alors pour vous, c'est quoi les enjeux pour parvenir à soigner la faune sauvage ensuite ? Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont adaptés ?
Alors, tout ce qui est protocole médicamenteux, tout ce qui est en fait du ressort du vétérinaire, nous allons avoir des protocoles qui sont préétablis par nos vétérinaires référents et sanitaires. Au-delà de ça, nous, quand on accueille un animal qui aura, par exemple, de très grosses plaies, on a déjà nos protocoles de soins, on sait exactement comment on doit agir dessus, même si toutes les plaies sont différentes. Et on met en place ces protocoles pour pouvoir les soigner. D'accord. Si par contre ça nécessite des soins un peu plus importants tels que des chirurgies, dans ces cas-là, on se réfère à nos vétérinaires qui vont œuvrer pour la faune sauvage et bien souvent à petit prix.
Ah oui, vous avez des relais en fait de vétérinaires autour de vous avec qui vous pouvez travailler. Okay.
Tout à fait. Il faut savoir que les vétérinaires n'ont aucune obligation d'accueillir la faune sauvage et n'ont aucune obligation de la soigner. C'est au bon vouloir de chaque vétérinaire. Et nous avons la chance d'avoir sur le département du Tarn quelques vétérinaires partenaires qui sont amoureux de la faune sauvage et qui nous permettent de soigner cette faune sauvage, on va dire, à petit prix.
Merci à eux alors. Et donc j'imagine qu'ensuite, le deuxième enjeu, c'est de réussir à les réintégrer à leur environnement sans qu'ils soient habitués en quelque sorte à l'homme.
Tout à fait, puisqu'un centre de soins, en fait, a vocation uniquement à accueillir ces animaux pour but de les relâcher. Nous n'avons pas le droit de les garder indéfiniment. Donc, après la période de soins, on entame la période de réhabilitation. C'est la rééducation à retourner en nature. Et donc, ils sont placés soit dans des enclos ou des volières qui leur permettent de réapprendre ou de renforcer leurs besoins physiques et physiologiques, apprendre à chasser pour, par exemple, les jeunes qu'on aurait élevés, ou réapprendre à voler pour un oiseau qui aurait subi une fracture.
Ok. Et est-ce qu'il y en a qui ne pourront pas réintégrer leur environnement ? Ça arrive que vous deviez en garder quelques-uns ?
Alors, effectivement, il y en a, et malheureusement plus qu'on ne le croit, qui ne pourront pas retourner en nature, puisqu'ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins physiques et physiologiques. Ça peut être un animal qui, malheureusement, aura une aile qui sera non fonctionnelle toute sa vie. Ça peut être un animal qui a de gros troubles neurologiques ou un animal qui est extrêmement imprégné. Selon leur cas et selon s'ils sont protégés ou non, s'ils bénéficient de programmes d'élevage pour la réintroduction, etc., soit l'animal est malheureusement euthanasié, soit dans ces cas-là, des démarches administratives sont engagées auprès des services vétérinaires et compétents pour pouvoir l'intégrer dans un programme de reproduction dont les descendants seront relâchés en nature.
Et alors, je me demandais, en parallèle des soins que vous apportez aux animaux, vous animez donc des ateliers d'animation et de sensibilisation.
Effectivement, nous avons annuellement quelques petits stands de sensibilisation à droite à gauche, où on va présenter en fait les missions du centre de soins, ce que fait notre association, à quoi elle sert. Mais on échange aussi avec les gens qui vont avoir rencontré par le passé des problématiques, que ce soit par exemple un rapace qui vient attaquer un poulailler ou un renard qui a mangé des canards. On va voir avec eux en fait comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter avec cette faune sauvage.
Ouais, ça c'est le plus important, réussir à cohabiter avec elle effectivement. Et c'est quoi votre grand défi pour demain ?
Notre grand défi pour demain, c'est de pouvoir continuer nos actions, puisqu'il faut savoir que nos associations de centres de soins, globalement en France, sont toutes des associations à but non lucratif. Elles fonctionnent uniquement grâce aux dons, aux adhésions, aux subventions qui sont très très maigres et au mécénat. Aujourd'hui, nous ne percevons pas de financement de fonctionnement. Donc, notre gros enjeu pour demain, c'est de réussir à trouver suffisamment de fonds pour continuer nos actions. Auquel cas, nous serons malheureusement amenés à prendre en charge vraiment en toute petite capacité ou voir à terme fermer le centre de soins si nous n'avons pas assez de fonds pour continuer nos actions.
D'accord. Donc on fait aujourd'hui un appel à soutien, à dons et à partenariats financiers pour vous aider à soigner tous ces animaux en difficulté dans votre centre de soins. Vous recherchez également simplement des adhérents, voilà, sans forcément soutien financier, mais en tout cas pour avoir plus de poids dans vos demandes de financement.
Alors tout à fait, les adhérents vont être en fait un soutien vraiment très marqué lorsqu'on fait nos demandes de subvention. On nous demande combien est-ce qu'on a d'adhérents dans notre association durant l'année qui s'est écoulée. Donc plus on a d'adhérents, plus on a de possibilités d'avoir du poids pour obtenir des subventions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant adhérent, on peut aussi être bénévole. On a diverses possibilités de bénévolat au sein de notre centre de soins. Le bénévolat concernant le soin ne sera effectif qu'à partir de printemps 2026. C'est un bénévolat qui intéresse beaucoup de monde. Mais comme nous sommes vraiment très, 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 très peu dans notre association, ça demande aussi un encadrement spécifique et il faut savoir qu'on travaille en plus de l'association. Et on n'est pas forcément obligé de nous aider financièrement, même si c'est ce dont nous avons le plus besoin. Mais on dispose également sur nos réseaux sociaux tels que Facebook une liste des produits que nous avons besoin systématiquement. Donc des fois, les gens peuvent les avoir dans leur placard ou des fois, les gens peuvent passer à Action ou à Nose et voir et penser à nous. Ou encore, il y a d'autres personnes qui, dans leur pharmacie, ont de la bétadine qui n'a jamais été ouverte ou des compresses. Ben, nous, en fait, on les récupère pour pouvoir soigner la faune sauvage.
D'accord. Mais très bien, donc on appelle aussi les dons de petits matériels pour vous aider à soigner ces animaux. Et d'ailleurs, récemment, Endémie Camille a été lauréate d'une petite subvention coup de pouce du pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides. Qu'est-ce que vous allez faire de cette subvention coup de pouce?
Alors ce petit grand coup de pouce pour nous va nous permettre d'investir dans du matériel pédagogique, tel qu'une mallette avec des empreintes pour pouvoir participer à des animations pédagogiques, ce genre de choses, sensibiliser en fait les gens aux empreintes qui nous entourent et finalement à cette faune sauvage qu'on ne connaît pas assez. Et également des petits carnets de reconnaissance qui permettent de reconnaître que ce soit les plantes, les arbres qui nous entourent, mais aussi les animaux. C'est vraiment tout un volet pédagogique qui va pouvoir être financé grâce au coup de pouce.
Pour vous contacter, pour pouvoir devenir bénévole ou éventuellement vous faire un don, comment on fait ?
On peut nous contacter directement par téléphone au 06 68 20 88 95, mais on peut aussi nous contacter sur Facebook, okay, Endémique Ami, ou encore, le mieux ça reste par mail, endémique.ami@hotmail.com.
Merci beaucoup Delphine Valero pour le temps qu'on a passé ensemble. On le rappelle, vous êtes donc la présidente, la gestionnaire et la capacitaire du centre de soins endémique AMI, qui est donc pour la faune sauvage, qui est basé à Terre de Bancalier dans le Tarn.
Bonne journée.
Je crois que nous, êtres humains, nous avons beaucoup plus de moyens que nous ne pensons pour inverser des situations qui nous paraissent absolument dramatiques, qui nous paraissent sans issue. Nous sommes parfaitement capables de trouver de nouvelles issues. Nous en avons le pouvoir. Et mon rôle ne consiste pas à dire je suis pessimiste ou je suis optimiste, mais à essayer en quelque sorte, à mon modeste niveau, d'aiguillonner un petit peu les consciences pour dire écoutez, non, vous voyez, le bateau coule, mais nous sommes capables de colmater, nous sommes capables de découper, nous sommes capables de redonner une direction et un sens à cette espèce de démarche complètement ivre.